Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Des camps de migrants évacués par la force, des pratiques policières dénoncées par les associations, l'accusation n'est pas nouvelle. Ainsi, l'été dernier, l'ONG Human Rights Watch dénonçait dans un rapport le harcèlement subi par des migrants de tous âges à Calais, notamment la pulvérisation de gaz dans l'eau et sur la nourriture pour les rendre impropres à la consommation. Mais il a fallu la une d'un journal et la tribune d'un écrivain pour que ces accusations prennent un tour plus politique. La une, c'est celle de l'Obs du 11 janvier. On y voit le visage en noir et blanc d'Emmanuel Macron, barré par des fils barbelés. Et ce titre, Bienvenue au pays des droits de l'homme. La tribune, elle, est signée Yann Moix. Elle a été publiée lundi dernier dans Libération. Une lettre ouverte, en fait, adressée au chef de l'État, dans laquelle on peut notamment lire ceci. J'affirme, monsieur le président, que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés. Alors, une telle accusation est grave. Elle laisse entendre que les autorités autorisent, voire encouragent, des actes de maltraitance à l'égard des migrants. Alors, la France maltraite-t-elle les migrants ? C'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de deux invités. Corinne Thor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de mission France à Médecins Sans Frontières, MSF, qui a ouvert récemment un centre de jour à Pantin, c'est en Seine-Saint-Denis, pour les jeunes étrangers. Pour discuter avec vous, Didier Lesky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a pour mission l'accueil et l'intégration des immigrés, l'accueil des demandeurs d'asile et l'aide au retour. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous poser la question qu'on pose dans cette émission ce soir. Est-ce que la France, aujourd'hui, maltraite les migrants, Corinne Thor ?
Oui, il y a plusieurs formes de maltraitance. Il y a ce que vous venez d'évoquer, la maltraitance physique, par des constats effectivement à Calais, mais pas qu'à Calais, d'utilisation de gaz lacrymogène. Nous étions présents, nous avons pu le constater nous-mêmes. Il y a la maltraitance surtout psychologique, avec une politique de non-accueil plutôt, avec des pressions policières, la peur de se faire arrêter ou la peur d'être envoyé dans les fameux centres d'hébergement d'urgence où il y a des bureaux de l'OFI d'ailleurs qui permettent tout de suite de faire le distinguo entre les migrants économiques des réfugiés. Donc oui, je ne peux que confirmer qu'il y a une forme d'accueil inexistante avec des pressions très très fortes sur la population migrante et pas que.
Et avant de donner la parole à Didier Lesky, est-ce que vous diriez que ces formes de maltraitance physique et psychologique, elles sont en augmentation aujourd'hui ? Elles sont en hausse ou bien est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ?
Alors, cela fait longtemps que, évidemment, on ne souhaite pas, l'État ne souhaite pas avoir des camps sauvages se démultiplier, ce qui s'entend. Mais nous pouvons constater tout de même qu'il y a une volonté avérée d'aller vite, de vite mettre à l'abri d'ailleurs, et c'est très bien, tous ces migrants qui dorment dehors. Après, la manière dont cela est fait, oui, il y a une augmentation très très forte de pression policière et des faits avérés. Et malheureusement, le gouvernement aujourd'hui ne veut pas l'entendre. Nous avons des témoignages, nous avons des vidéos, nous avons des témoignages écrits. Et ça, c'est regrettable parce que malgré tous les efforts faits sur le terrain de la part des associations qui œuvrent et qui prennent en charge une partie de la population migrante qui n'est pas prise en charge par l'État, nous ne sommes pas entendus, et particulièrement les associations nationales et locales.
Comment est-ce que vous répondez, vous, Didier Lesky, à ces accusations, à ces constats en tout cas de maltraitance, notamment de maltraitance policière, de maltraitance psychologique à l'égard des migrants ?
Je crois que c'est pas rendre justice à la fois au pays et au travail fait par un certain nombre de fonctionnaires, de l'OFI, des préfectures, que d'entamer le débat comme ça. Depuis 5 ans, on a doublé le parc d'hébergement. On était à peu près à 34 000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile en 2012. On est aujourd'hui à un peu plus de 84 000 places. Il y a entre 200 et 400 places qui sont ouvertes toutes les semaines. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que globalement, le pays se comporte bien et accueille, hein, et on n'a pas d'incident dans les ouvertures de lieux d'accueil. Et je crois qu'il faut le dire et il faut rappeler ceci parce que sinon on a le sentiment d'être dans un pays qui structurellement refuserait en particulier l'accueil des demandeurs d'asile qui est une partie de la migration, puisque je rappelle par exemple que l'année dernière il y a eu 260 000 nouveaux titres de séjour qui ont été attribués à des personnes qui ont un droit au séjour en France, donc qui qui, le phénomène d'immigration reste important.
Mais comment est-ce que vous expliquez dans ce cas qu'il y ait autant d'associations aujourd'hui, de personnalités qui alertent sur un durcissement de cette politique d'immigration qui se traduit justement par des phénomènes de
violence ?
Parce
que je crois que malheureusement l'ensemble du débat est polarisé par une situation particulière qui est celle de Calais, qui est une impasse et dans laquelle on a effectivement une tension qui n'aide pas à penser le débat. Bien que je rappelle qu'à Calais, nous étions arrivés jusqu'à 11 000 personnes et que l'évacuation de la Lande qui a été organisée, en particulier par l'OFI, fait qu'on a beaucoup moins de personnes à Calais. On n'a plus ce camp de boue qui était absolument intolérable. Et surtout, il faut rappeler que, alors qu'on nous prédisait les pires catastrophes, à la fois du côté de certaines associations comme du côté du parti du personnel politique, nous avons réussi à accueillir les personnes qui étaient à Calais sans drame particulier. Il n'y a pas eu cette idée qu'on allait multiplier les petits Calais ou qu'il y aurait eu une révolte de la population pour empêcher l'accueil de ces migrants. Calais, c'est une situation particulière.
Excusez-moi, mais il n'y a pas que Calais. Là, on parle de Calais, mais c'est exactement la même situation à la frontière franco-italienne, avec le renvoi systématique des migrants par la PAF du côté italien. Il y a la situation en Briançon qui dégénère aujourd'hui, puisque sur la Roya, il n'y a pratiquement plus personne et les migrants se mettent de plus en plus en danger en passant par la montagne. Jusqu'à maintenant, Briançon se débrouillait avec les associations. Aujourd'hui, c'est pression de la PAF aussi pour envoyer et arrêter tous ces jeunes. Ouistreham qui dégénère aussi.
Je ne disconviens pas qu'il n'y a pas de difficulté. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble du débat se polarise. Et vous avez rappelé la tribune de Yann Moix. Par rapport à une situation à Calais, qui est une situation un peu particulière, puisqu'on a entre 500 et 600 personnes qui, par exemple, refusent les hébergements qu'on leur propose tous les jours. Tous les jours, il y a des équipes de l'OFI qui vont avec des maraudes. Et tous les jours, il y a des systèmes de cars qui sont organisés pour permettre aux personnes d'aller dans des lieux d'accueil. Mais Calais est une impasse particulière par rapport à une situation globale, puisque votre question, c'est de savoir si la France accueille ou pas, qui est celle, globalement, je dirais, de l'accueil. Je rajoute le fait qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs mois des systèmes particuliers, même dérogatoires par rapport à ce qu'on appelle le droit commun pour l'accès à l'emploi, des systèmes où on met les personnes dans des centres de formation professionnelle, on leur assure à la fin un travail et un logement, ce qu'on ne fait pas de manière générale. Par exemple, aujourd'hui, les réfugiés qui sont dans les centres d'accueil organisés par l'OFI, ils sont très souvent mis en priorité sur l'accès au logement social. Donc, on ne peut pas dire des choses aussi systématiques que celles-là. Et enfin, je terminerai et après je vous laisse, c'est que les associations, ce sont des associations qui sont aussi mandatées par l'État et financées par l'État pour la grande majorité d'entre elles. Donc, l'État travaille avec les associations et les associations vivent de la manière dont l'État les subventionne.
Corinne, est-ce que vous partagez au moins déjà un des constats que fait Didier Leschi, qui est celui d'une augmentation de la capacité d'accueil pour justement recevoir ces migrants ? Augmentation qui est peut-être pas suffisante, mais en tout cas, un effort qui a été fait en la matière et également pour l'accompagnement.
Alors, l'accompagnement, je n'en suis pas certaine, pour être tout à fait honnête. Qu'il y ait un effort, oui, bien sûr, il y a énormément de monde dehors. Moi, je voudrais juste rappeler tout de suite, parce que je sais que vous avez tendance à dire que nous sommes en pleine crise migratoire. Non, il n'y a pas de crise migratoire aujourd'hui. La crise migratoire, elle était en 2015. C'est la Grèce qui l'a subie de plein fouet, c'est l'Italie qui l'a subie de plein fouet. Il y a une politique aujourd'hui qui est très claire, qui est une politique, excusez-moi d'insister là-dessus, mais de non-accueil. C'est-à-dire qu'on décide sur un plan européen de repousser les migrants le plus possible vers les pays d'origine. Sous le mandat du président Macron, il y a vraiment un afflux très important avec des décisions qui sont prises pour faire en sorte d'arrêter les flux migratoires vers l'Europe et en particulier vers la France. La France, c'est facile. Aujourd'hui, qui arrive en France ? Ce sont soit des personnes qui peuvent être dublinées. Je rappelle que la loi Dublin, c'est prise d'empreinte dans le pays de passage. Et pour la plupart, on ne leur demande pas leur avis et surtout on ne leur explique pas qu'ils doivent demander l'asile dans ce pays-là. Aujourd'hui, la France est au bout de la chaîne. Donc, à la limite, pratiquement tout le monde est dublinable, si on peut dire. Ensuite, il y a cette fameuse notion de migrant économique et de réfugié.
Mais ce qui pose problème à MSF, Corinne Thor, c'est quoi ? C'est qu'il y ait cette doctrine-là, disons, en matière d'immigration, qui consiste donc à réguler, à limiter les flux migratoires, ou bien c'est la façon dont on limite, dont on cherche à limiter ces flux qui pose problème ?
C'est la façon, c'est très clairement la façon, et surtout, c'est aujourd'hui... Je crois qu'on bafoue la base fondamentale de la France, hein, qui était un pays terre d'accueil. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas fait d'efforts, je ne dis pas que vous n'en faites pas. Ce que je dis, c'est que les personnes, malheureusement, qui sont sur le territoire français ne sont pas toutes prises en charge. D'une part, parce que vous avez énormément de personnes qui ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont en transit. Or là, il y a une vraie répression. Et sur Calais, c'est la situation. Aujourd'hui, à Calais, ce sont des personnes qui veulent aller en Angleterre.
Non, mais je crois qu'il y a, plusieurs choses. D'abord, moi, je n'utilise pas le terme de crise migratoire, je vous ai pas dit ça. Je crois que la situation de la France est un peu particulière par rapport au reste de la situation en Europe, puisqu'en fait, c'est de manière différée qu'on a une augmentation du nombre d'arrivées, en particulier de demandeurs d'asile. Et on a, dans certaines zones, et en particulier à Paris, l'arrivée de personnes qui ont été déboutées de l'asile d'Allemagne, hein, en particulier des Afghans, et qui viennent en France comme un pays de rebond. Un des aspects de ce qu'on a appelé la crise migratoire à partir de 2015, hein, c'est le fait que ça met en tension les mécanismes européens, puisqu'on est dans des systèmes qui apparaissent comme incohérents, puisque quelqu'un qui a été débouté de l'asile en Allemagne et qui arrive en France, la logique de Dublin, c'est qu'on le renvoie en Allemagne pour que l'Allemagne traite in fine sa demande d'asile jusqu'à le renvoyer, si elle le souhaite, en Afghanistan.
Oui, mais ce que les associations, notamment Didier Leschi, c'est pas que le fait qu'il puisse y avoir des tensions, ça c'est tout à fait compréhensible. C'est la façon de gérer ces tensions.
Mais je crois que la façon globale de gérer les tensions, à part quelques cas, est plutôt positive. Et je le redis, à la fois dans le nombre de places d'accueil, dans les dispositifs qui sont pris. Par exemple, ce que fait le centre hospitalier de Calais depuis des années dans l'accueil des personnes qui ont des problèmes de santé à Calais et fait partie des dispositifs. Mais laissez-moi terminer. La deuxième chose, c'est que la France, dans un contexte européen où il y a effectivement une diminution de nombre d'entrées, a une augmentation de la demande d'asile en particulier, qui est un des aspects, je le rappelle, de la migration.
Hein, je veux dire, 100 000 demandes d'asile l'an dernier, plus 17%, 32 000 demandes acceptées, plus 21%.
Non, 43 000 demandes acceptées en 2017.
Ah pardon, oui, voilà. Ouais,
D'accord, donc il y a 32 000 en 2016.
Qu'est-ce que c'est
32 000 en 2016.
Donc, 66 millions d'habitants. Enfin,
la question n'est pas qu'est-ce que c'est par rapport à la population, c'est que l'OFPRA est un organisme indépendant et qui statue, mais la question globale, d'abord, il ne faut pas réduire la question de l'intégration, de l'immigration et de l'accueil à simplement la question de la demande d'asile. Je rappelle, 260 000 nouveaux titres de séjour en 2017, 220 000 en 2016, donc il y a une augmentation globale de l'accueil et de la venue d'étrangers en France, et il n'y a pas, contrairement à d'autres pays, à partir de la crise migratoire, de remise en cause de droits comme le droit au rapprochement familial. Je vois par exemple des pays d'Europe du Nord ou d'Allemagne, hein, où on remet en cause un certain nombre de droits.
Attendez, excusez-moi, je vais quand même vous couper parce que vous tracez un portrait très idyllique de la situation par rapport aux efforts que vous faites. La situation sur le terrain, elle est autre. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont dehors. Alors quand je dis enfants, j'aimerais qu'on insiste un peu sur la situation des mineurs. Nous avons énormément de mineurs, en tout cas qui se déclarent mineurs, et nous devons de les entendre à partir du moment où ils se déclarent mineurs. En France, on a une augmentation importante des arrivées de mineurs depuis 2014-2015, c'est assez flagrant. Bon, pour autant, c'est 25 000 mineurs sur le territoire français, avec des pratiques d'évaluation qui sont faites au détriment du mineur, c'est-à-dire à charge et pas au bénéfice du doute. Nous avons des personnes
Chaque individu doit prouver qu'il est mineur.
Oui, alors on le met pas du tout dans un dispositif de protection, on le met dans un dispositif où pratiquement en 2 heures, il doit être capable de convaincre la personne qui est en face de lui qu'il est bien mineur. Or, on le déboute de sa minorité à 85% à Paris quand même, hein, c'est énorme. Uniquement parce que son discours... Écoutez, je vous assure, c'est des copier-coller
Je vais à mon tour vous interrompre. Je veux dire, d'abord, il faut rappeler que la question des mineurs n'est pas une compétence de l'État, mais une compétence des conseils départementaux. Et donc, Paris, en tant que conseil départemental.
Oui, la façon des migrants.
Que la personne qui, à Paris, organise.
Parce que c'est l'aide sociale à l'enfance.
Voilà, c'est l'aide sociale au niveau du département. Que la personne qui organise tout ça et qui supervise tout ça, je crois, n'est pas quelqu'un de particulièrement hostile à la migration. C'est Madame Versini, qui était en plus défenseur des enfants. Il se trouve que c'est la mairie de Paris qui fait les évaluations et qu'elle constate que d'après ces calculs, simplement 30% de ceux qui se déclarent mineurs sont mineurs. Mais de manière globale, l'ensemble des conseils départementaux a fait un effort important. Ce qui est vrai et ce qui est discuté, c'est que ce qui a été mis en place au moment de la décentralisation, hein, c'est-à-dire de confier cette compétence de l'aide sociale à l'enfance au département, n'apparaît pas adapté par rapport à l'avenue massive de personnes qui sont mineurs.
Donnez-leur les moyens de travailler correctement. Donnez-leur des interprètes, donnez-leur des travailleurs sociaux.
C'est pas donnez-leur, je vous rappelle,
C'est la responsabilité de l'État, je suis désolée.
Non, ce n'est pas la responsabilité.
À partir du moment où vous avez une personne vulnérable qui arrive sur le territoire, si, c'est la responsabilité de l'État de la prendre en charge. Aujourd'hui, on attaque la société civile qui héberge des personnes qui arrivent sur le territoire. C'est du délit citoyen, c'est complètement aberrant. Je veux dire, on se retrouve de plus en plus à avoir des citoyens français qui sont attaqués au niveau du tribunal parce qu'ils ont porté secours. Non, je suis désolée, c'est la responsabilité de l'État.
On peut pas passer d'un sujet à l'autre comme
ça.
C'est un peu compliqué. La responsabilité de l'État, c'est l'hébergement d'urgence immédiate. C'est par exemple ce qu'on avait fait à Calais au moment de l'évacuation de la Lande, où immédiatement on a pris en charge des mineurs. Mais après, il y a des conditions juridiques, et du reste, certaines associations avaient introduit des référés contre l'autorité préfectorale, parce que justement, elles mettaient à l'abri des mineurs, alors que ce n'est pas directement la compétence de l'État, mais la compétence des conseils départementaux sous la responsabilité des juges. Donc voilà, là il y a un problème. Après, qu'il y ait un problème global de financement pour les conseils départementaux par rapport à l'accueil lui-même, c'est ce qui est en ce moment en discussion avec le gouvernement et entre les conseils départementaux, ça c'est vrai. Mais je rappelle que c'est un choix aussi qui est de la compétence des élus et pas simplement de la compétence comme ça in abstracto de l'État. Mais si la question c'est est-ce qu'on accueille mal, je crois que globalement il y a des difficultés, il ne faut pas les nier, mais que le pays globalement accueille plutôt bien et l'investissement de l'État de ce point de vue-là n'a pas diminué d'un gouvernement à l'autre, il a même augmenté en budget.
Didier Leschi et Corinne Thor, je ne sais pas si alors vous en ferez entrer dans la catégorie des difficultés Didier Leschi, certaines accusations. Pardonnez-moi, mais je reviens quand même sur ces accusations de violence policière sur le terrain. Je vais pas vous relire toute l'entièreté de la tribune de Yann Moix, mais il dit quand même ceci. Des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement. Il parle de saccage d'abris, de confiscation d'effets personnels, de pulvérisation de sacs de couchage, d'entrave à l'aide humanitaire. Est-ce que d'abord, vous, Corinne Thor, vous avez été témoin de tels actes de violence ou bien est-ce que ce sont des choses qui vous ont été rapportées?
Nous avons organisé des cliniques mobiles sur Calais à la demande des associations qui demandaient très clairement de l'aide parce que il y avait de la maltraitance. Ce que nous avons pu constater donc médicalement lors de nos consultations médicales, c'est effectivement des personnes gazées avec des problèmes oculaires importants. Suite à cela d'ailleurs, nous avions sorti une tribune sur le sujet au courant de l'été. Nous allons à Calais tous les mois. Oui, il y a des violences policières et surtout une répression. C'est-à-dire qu'on est dans une politique, on instaure la peur, on fait en sorte de systématiquement repousser toutes ces personnes. Ce n'est pas qu'à Calais, encore une fois, ce constat. À Paris aussi, on a vu des tentes coupées parce qu'on ne veut pas de camps sauvages. Alors, pour revenir à ce problème de maltraitance, aujourd'hui, la situation est telle que je pense qu'effectivement, nous n'avons pas assez d'hébergement d'urgence et d'hébergement digne. Vous avez mis en place des nouveaux centres d'hébergement. Excusez-moi, mais quand je vois la patinoire de Cergy, où on a effectivement deux immenses tentes qui sont dans la patinoire avec des lits de camp pour avoir 200 personnes, j'appelle pas ça un hébergement digne de ce nom. C'est effectivement un hébergement d'urgence avec une politique qui veut aller extrêmement vite sur le choix de faire le distinguo au niveau des migrants économiques et des réfugiés.
Didier Leschi, ces actes de maltraitance et de harcèlement, est-ce que vous dites quand même que oui, il y en a qui existent et il s'agit de lutter contre, ou bien vous dites que ça n'existe pas du tout aujourd'hui?
Je dis que à Calais, il y a un drame qu'il ne faut pas nier parce que Calais est une impasse et donc on arrive à quelque chose qu'il faut absolument faire cesser et qui met.
Et c'est un drame qui produit de la violence.
Oui, c'est un drame qui produit de la violence des deux côtés. Du reste, c'est l'enjeu du reste de la réponse de votre confrère de Nord Littoral à Yann Moix de souligner cela.
Mais ouais, qui est un journaliste qui répond effectivement à Yann Moix en disant moi j'ai assisté aussi à la discussion que vous avez pu avoir, qui s'adresse à Yann Moix, avec le préfet notamment du département. Vous ne tenez pas du tout le même discours hors caméra et puis une fois que vous êtes à la télévision. Il y a de la violence, certes, mais il y a aussi de la violence des migrants, il y a aussi de la violence entre migrants.
Bien évidemment, il y a de la violence des migrants, mais la question n'est pas celle-là. Je crois que ce qu'il faut dire, mais je crois que je l'avais dit déjà il y a quelques mois, vous m'aviez invité, ce qu'il faut dire, c'est que Calais est une impasse et que l'enjeu pour tout le monde, c'est que les personnes acceptent d'aller dans les centres d'hébergement et ne reconstituent pas quelque chose qui s'apparente à la lande. Et tout le problème de la contradiction de cette situation, c'est que justement personne n'a envie qu'il y ait de nouveau une lande à Calais et tout le monde a envie que les personnes partent dans les centres d'hébergement et dont de premier accueil.
Comme est-ce que ça n'est pas le problème justement, Didier Lesky, c'est de vouloir à ce point que la lande, la jungle de Calais ne soit pas reconstituée, qui fait qu'on fait tout, et peut-être parfois avec un certain nombre de débordements, pour que ça ne soit pas reconstitué.
Oui, parce que c'est une situation extrême et qui n'est pas résolvable, parce que la résoudre supposerait d'une certaine manière d'arriver à faire comprendre et aussi d'arriver à contrer les passeurs qui veulent absolument maintenir les personnes à Calais pour qu'elles puissent passer à Calais. Il y a une sorte de plateforme, je dirais, qui est tenue par des passeurs. On le voit aussi à Grande-Synthe. Et donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de faire admettre aux personnes que voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer là.
Après, c'est un vrai dilemme quand même, Corinne Thorn. Je vous redonne la parole juste après Didier Lesky, mais c'est un vrai dilemme de se dire, c'est-à-dire, alors pour rester sur Calais, même si la question des migrants ne concerne pas, n'est pas uniquement réductible à la question au problème calaisien, mais de se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire prendre le risque quoi de reconstituer un camp comme celui qui a pu exister jusqu'en 2016.
Je crois qu'il faut les aider, faut les entendre, faut les écouter. Ce ne sont pas encore une fois des demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont en transit. Il faut les aider à continuer leur parcours. Donc ça veut dire qu'il faut probablement essayer d'avoir une pression plus forte sur la Grande-Bretagne pour qu'ils acceptent du monde. Ce n'est pas nouveau, ça fait 30 ans que cela dure. Il y a toujours eu des personnes en transit dans cette région. La difficulté qui est avérée et qui fait qu'aujourd'hui la situation se dégrade, c'est que de toute façon, plus il y aura des pressions policières, il ne faut pas s'imaginer que finalement, ils ne vont pas venir. Ils vont continuer de venir, ils vont continuer de se mettre de plus en plus en danger. Oui, il y a des bagarres entre migrants. Et pourquoi ? Parce qu'on les laisse dormir dans les dunes, dans des conditions extrêmement indignes. Aujourd'hui, attendez, laissez-moi finir. Ouistreham se développe de plus en plus parce que, pourquoi ? Les passeurs font en sorte que ces personnes qui sont à Calais se déplacent plus parce qu'on va avoir la possibilité peut-être de passer de Ouistreham. On a encore une fois la même situation sur Briançon, sur Chamonix, sur l'Est de la France.
Je pense qu'il faut essayer de la situation, elle est complexe, il faut essayer de la mettre à plat et de ne pas hystériser les choses comme l'a fait Yann Moix. À Calais, nous proposons tous les jours de l'hébergement inconditionnel. Tous les jours, il y a des cars qui sont mis en place, des maraudes de l'OFI, et on dit aux personnes, acceptez.
L'OFI, je rappelle, pour ceux qui prennent l'émission en cours, Office français de l'immigration et de l'intégration.
Acceptez de rentrer. Et je dois dire que depuis deux ans, non, elles ne seront pas arrêtées derrière. Et depuis deux ans, nous l'avons fait, et ce qui fait qu'il n'y a plus ces milliers de personnes qui étaient à Calais. Et je me rappelle qu'au moment du démantèlement de la lande de Calais, on a eu les mêmes accusations en disant, vous faites des centres d'accueil et d'orientation, les gens vont être arrêtés, refuseront de.
J'ai une question à vous poser par rapport à cela.
Leur demande d'asile, etc.
Donc, vous avez envoyé 8500 personnes en province avec la création des CAO et des CAOMI.
Oui.
Combien ont obtenu le droit d'asile ?
Mais après, en ce qui concerne les Afghans, je rappelle que le taux de protection en France est à peu près de 9 sur 10 alors qu'il n'est que d'un 1 sur 2 en Allemagne. Et c'est pour ça que nous avons une arrivée de ces fameux Dublin qui arrivent à Paris. Et les chiffres qui ont été donnés par l'OFPRA récemment, puisque je rappelle que c'est l'OFPRA qui instruit les demandes et que l'OFPRA est un organisme indépendant, pour les Soudanais, c'est entre 60 et 70%. Mais moi, j'ai pas à juger du travail de l'OFPRA qui est chargé d'instruire les demandes d'asile.
Sur les conditions d'accueil, juste une question, Didier Lesky, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il ait fallu en passer par une décision du tribunal administratif de Lille, puis du Conseil d'État l'été dernier, pour obliger la ville de Calais et l'État à installer des points d'eau, des toilettes, des douches, Alors que ça, c'est quand même quelque chose qui aurait dû se faire de manière naturellement. Pourquoi passer par la justice quand pour répondre à ce besoin vital? Est-ce que c'est justement pour ne pas fixer les gens sur place?
Oui, c'est justement pour ne pas fixer les gens sur place et que toute la discussion était, dès lors qu'on vous propose un hébergement à 50 km, est-ce que mettre sur place ce type de dispositif ne va pas commencer à être le début de la constitution d'un nouveau campement. Voilà.
Et donc, avoir accès à l'eau, on peut quand même comprendre que ça soit considéré comme de la maltraitance, là, non?
Vous parlez d'appel d'air en permanence.
Attendez,
en
fait, moi, je n'ai pas parlé d'appel d'air, madame. Vous utilisez dans ma bouche des mots que je n'utilise pas.
Quelque part, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, ce que je pense, c'est qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas une lande qui se reconstitue. Voilà. Après, quand on propose tous les jours un hébergement où il y a l'eau, où il y a la douche, où il y a la nourriture, ça veut dire qu'on propose quelque chose et qu'il y a une alternative. On peut pas dire qu'il y a rien. Après, la discussion de savoir s'il faut exactement là sur place, c'était en plus une discussion avec la collectivité locale, parce que à chaque niveau administratif, il y a aussi des compétences qui se jouent. Mais je dois dire que vous pouvez pas dire que, par exemple, vous parlez du centre de premier accueil qu'on a mis à Pontoise. Bien évidemment, on est obligé à un moment donné de faire des choses dans l'urgence, qui sont pas exactement un logement ou un hébergement, mais qui sont des centres de premier accueil. Et après, on envoie les personnes, au bout d'une semaine, dans des centres qui sont beaucoup plus pérennes. Je crois que c'est la politique qu'il faut avoir pour pas laisser les gens à la rue.
Quel centre plus pérenne? Excusez-moi, mais quel centre plus pérenne, justement?
84 000 places, madame. 84 000 places, aujourd'hui, existent à travers la France.
Attendez, moi, je suis sur le terrain tous les jours,
mais
monsieur.
Mais moi aussi. Et je peux vous dire n'avez pas le monopole du terrain, donc moi aussi, je suis sur le terrain tous les jours.
Que je parle, merci. Oui. Je suis
mais
sur le terrain.
Permettez aussi que je vous réponde quand vous m'interrompez.
Chacun son tour. Très précisément, les centres que vous avez sont des centres où il n'y a pas de travailleurs sociaux, où vous les envoyez dans des villages très loin. Après, on se demande pourquoi ils partent. Ils ne parlent pas la langue française. Vous parlez d'intégration. C'est pas une politique d'intégration, ça. Je suis désolée. Il n'y a pas de consultation médicale. Ils n'ont accès à rien. C'est pas ça une politique d'accueil. Je suis désolée.
Mais
ce n'est pas
madame,
ça.
Je peux pas vous laisser vous dire ça.
Si, vous allez me laisser terminer ce que j'ai à dire, déjà, s'il vous plaît. Parce que cette politique-là, c'est une politique de renvoi. C'est pas une politique d'accueil, c'est une politique de renvoi. Vous faites de l'hébergement d'urgence. Le président Macron, qui a fait son discours au mois de juillet, c'était très bien d'annoncer qu'il ne voulait plus voir qui que ce soit dehors. La réalité, c'est qu'il y a encore du monde dehors. La réalité, c'est qu'il y a des décisions qui se prennent à l'emporte-pièce, à la dernière minute, pour essayer de mettre du monde à l'abri, et qu'aujourd'hui, les décisions politiques sont de renvoyer le plus possible de migrants à l'extérieur de la France. Oui, je suis désolée, il y a la maltraitance, je réinsiste. Il y a le non-respect du droit, déjà la frontière franco-italienne, en renvoyant tout le monde en Italie, c'est illégal. Il y a le non-respect des citoyens français.
C'est illégal, ça veut dire que la France est susceptible d'être condamnée pour ça?
Vous avez le président Macron qui dit en Italie, l'Italie a trop fait, la France n'a pas fait assez. Or, la PAF est présente systématiquement à la frontière pour les empêcher de rentrer. Les mineurs, c'est une obligation de les laisser.
Voilà, si vous avez un instant, je pourrais répondre peut-être.
Allez-y.
Merci. D'abord, chaque centre d'accueil est géré en partenariat avec une association qui a des travailleurs sociaux. Il n'y a pas de fonctionnaires de l'État dans les centres d'accueil, mais à chaque fois, ce sont des associations mandatées, des très grands réseaux qui existent
et qu'ils
le font. Et je crois qu'ils le font très bien. Il faut saluer ces partenaires de l'État que sont ces associations. Il y a partout où c'est possible des dispositifs souvent de droit commun pour l'accès aux soins, ce qu'on appelle les PAS. Donc on a quelque chose qui se met en place. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que sinon on donne l'image d'un pays qui n'accueille pas. Or je crois que c'est faux. Et il faut à chaque fois le dire. Ce pays globalement se comporte bien. On n'a pas d'attaque ou d'agression contre des foyers de personnes migrantes comme on a pu en avoir par exemple dans les années 70. On avait des foyers qui brûlent ou comme on a en Espagne ou parfois en Allemagne. Donc je crois que c'est important de le dire. Et c'est important de le dire par rapport à tous ceux qui s'investissent là-dedans, qu'ils soient fonctionnaires de l'État, membres des associations mandatées par l'État, bénévoles, qui font, je trouve, un travail particulièrement important et le dénigrer et le dénigrer de la manière globale en disant globalement il y a une politique qui est terrible, etc.
Mais oui,
ça n'aide pas.
Ce n'est pas dénigrer les associations.
Et en plus, je pense que c'est factuellement faux. Voilà. Et mais ce qui est important.
Expliquez-moi l'un et l'autre, si vous voulez bien, pour quelle raison finalement ça semble si compliqué d'avoir un travail en commun entre d'un côté les associations, les ONG, et puis de l'autre côté les services de l'État. Didier Lesquy, ensuite je poserai la même question.
D'abord, aujourd'hui, l'ensemble de la politique publique ne fonctionne que par le biais des associations qui sont mandatées. Aujourd'hui, vous n'avez plus vous n'avez pas de fonctionnaires de terrain, partout, capables de remplir ces missions d'accueil.
Donc, il y a quand même des directives, il y a quand même une politique générale.
Des gens, des hommes et des femmes qui accueillent. Voilà, les hommes et les femmes qui accueillent de manière très concrète dans les 84 000 places, ce ne sont pas en permanence des fonctionnaires de l'État, mais ce sont des associations mandatées qui appartiennent globalement à l'ensemble du réseau associatif, donc, et qui sont mandatés par l'État, financés par l'État, avec des critères qui sont extrêmement précis, qui sont inscrits dans le code de l'action sociale, et qui fait qu'on a des choses qui sont extrêmement bornées, et l'État et les agents de l'OFI vont vérifier si ce qui a été demandé aux associations de faire est effectivement bien fait en termes d'accompagnement social, d'aide au récit, pour aller après à l'OFPRA, etc. Donc, on fait des choses. Donc, dire qu'il n'y a pas et qu'il y aura une opposition, c'est absurde. Je rappelle même que cet effort constant, il a été renouvelé, par exemple, au moment où le gouvernement faisait des économies budgétaires partout. Le seul endroit où il n'y a pas eu d'économies budgétaire, c'est justement sur la question de l'accueil. Et l'OFI, par exemple, a vu de nouveau ses effectifs augmenter pour ce faire.
Comment est-ce que vous travaillez, par exemple, vous, Corinne Thor, avec l'OFI, et plus largement, quels seraient pour vous les principaux obstacles qu'il faudrait lever pour que vous puissiez travailler dans des conditions qui vous paraissent meilleures?
Alors, déjà, je tiens à préciser qu'MSF ne travaille pas sous financement de l'État, puisque nous travaillons exclusivement avec des dons privés, donc nous ne sommes pas financés par l'État, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous donne la capacité de parole un petit peu plus ouverte. Moi, je ne critique absolument pas le rôle des associations, bien au contraire. Ce que je remonte comme information, c'est qu'aujourd'hui, même les associations qui travaillent au sein des organismes, enfin des structures comme le CPA, le Centre de la Chapelle ou tous les nouveaux centres d'hébergement, se plaignent toutes, sans exception, d'un manque de moyens. Donc c'est en cela que je vous dis, il faut plus de moyens. Vous ne pouvez pas prendre en charge une population correctement si vous n'avez pas assez de monde sur place, soit pour des consultations médicales, vous avez parlé des passes, les passes et l'accès aux soins à l'extérieur du centre d'hébergement. Si vous n'avez pas les moyens d'emmener le malade dans les passes, eh ben, il ne pourra pas se faire soigner. Après, aujourd'hui, le gros problème, c'est une volonté politique, encore une fois, de ne pas obligatoirement laisser effectivement se reconstituer des camps sauvages, et on l'entend. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que on doit maltraiter des personnes dehors pour éviter des camps sauvages? Non, je suis désolée, c'est pas acceptable, c'est pas humain, on respecte pas la dignité humaine dans ce cadre-là.
S'agissant des centres d'hébergement et des centres d'hébergement d'urgence en particulier, il y a un sujet dont on n'a pas encore tout à fait parlé, qui est cette fameuse circulaire Colomb. Une des circulaires Colomb, celle du 12 décembre dernier, qui prévoit envoyer des équipes mobiles dans les centres d'hébergement d'urgence. Les associations, alors, sont vent debout contre cette circulaire. Il y a une procédure qui est en cours devant le Conseil d'État, Conseil d'État a été saisi au mois de janvier. Pour quelles raisons est-ce que vous, par exemple, à MSF Corinne Thor, vous êtes contre? Et puis ensuite, Kileski nous expliquera peut-être pourquoi ce dispositif-là existe.
C'est ce centre d'hébergement d'urgence. Ça veut dire qu'on remet complètement en cause si des membres de l'OFI peuvent venir à tout moment contrôler qui se trouve dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est remettre fondamentalement en cause le système d'aide français et d'accueil. Ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait. Effectivement, Édouard Philippe nous a expliqué lors de la réunion à Matignon que c'était des pratiques qui étaient déjà faites. Toutes les associations, là, pour le coup, tout le monde était là pour dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas laisser faire cela.
Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait, Didier Lesquy?
Non, ça se fait depuis 2 ans, mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que il y a 2 sortes d'hébergements inconditionnels généralistes en France dans lesquels on peut trouver des personnes en migration ou demandeurs d'asile. Il y a le dispositif national d'accueil qui est géré par l'OFIN, donc c'est les 84 000 places dont je dis qu'elles augmentent entre 200 et 400 de plus par semaine. Et puis il y a un dispositif généraliste dans lequel il y a 140 000 places. Et là, justement, on a dans ce dispositif une situation un peu particulière puisqu'il n'y a pas ou très peu de travailleurs sociaux, en particulier en région parisienne, où ce sont des personnes qui sont mises à l'hôtel et qui sont mises dans une sorte de non-lieu, si vous voulez, social, où on ne revisite jamais leur situation. Elles peuvent rester là des années. Et tout l'enjeu de la circulaire, c'est de dire il faut aller vers ces personnes, arriver à discuter avec elles puisqu'on est dans du déclaratif et pas dans du contraint de leur situation. Il y a des personnes qui sont déjà réfugiées, qui ont déjà le statut, dont le parcours doit les amener et on doit les accompagner vers du logement. Il y a des personnes qui sont en demande d'asile, qui ont déjà déposé leur demande d'asile. Leur vocation n'est pas de rester dans ces hôtels, qui sont souvent des Formule 1, etc., mais d'aller dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile où justement il y a un accompagnement social. Et puis il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans une situation qui n'est pas régulière, qui n'ont pas de titre de séjour. Et là, il faut leur proposer de nouveau un entretien en préfecture pour faire le bilan de cette situation. Et on peut avoir différentes situations. On a des personnes qui, par exemple, travaillent depuis des années. Il faut les régulariser dans le sens où ce qui était prévu, par exemple, par la circulaire de Manuel Valls. Il y a des personnes qui ont eu des enfants qui sont nés. Enfin, il faut de nouveau réexaminer les situations parce que sinon, on est à la fois dans un non-lieu et dans une sorte de nini qui n'aboutit à rien, si ce n'est continuer, et en particulier en Seine-Saint-Denis, parce que j'étais 3 ans en poste en Seine-Saint-Denis, à avoir ces hôtels qui sont occupés par des familles que personne ne vient voir et qui sont envoyés par le 115 de Paris, et aucun travailleur social de Paris ne va en Seine-Saint-Denis pour les examiner.
Donc c'est ça permet quand même, ça permet quand même, Didier Lesky, de contrôler la régularité.
Parce que les agents de l'OFI ne sont pas des agents de police, et n'ont aucun moyen de demander à quiconque des documents d'identité. Donc tout ça se fait sur base déclarative. C'est pour ça que la circulaire dit bien, vous prévenez 24 heures à l'avance, et tout ça, c'est du déclaratif. Donc les gens parlent en fonction de leur situation et en fonction de l'aide qu'on peut ou pas leur apporter. Donc il n'y a pas de contrôle et les agents de l'OFI n'ont aucun moyen de mettre un terme à un quelconque hébergement. Donc il y a là, autour de cette affaire, une espèce de polémique qui cache autre chose, mais qui est tout à fait louable. Et je peux comprendre la position des associations qui est de dire, attention, vous allez peut-être trouver des clandestins et chaque clandestin doit être régularisé. Mais c'est en réalité une deuxième discussion par rapport à celle de la prise en charge de personnes qui sont dans ce non-lieu social, qui est l'hébergement d'urgence, en particulier en Île-de-France.
Si la crainte est aussi forte du côté des associations, Corinne Torres, que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de clandestins qui, justement, se retrouvent dans ces centres d'hébergement d'urgence.
Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clandestins. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des familles qui commencent à être mises dehors. Dans ma région, dans le Gers, par exemple.
Mais mises dehors par qui ?
Par l'État, puisqu'il y a des décisions qui sont tombées de ne pas leur donner l'asile alors qu'elles sont présentes sur le territoire depuis des années. En face de chez moi, j'ai exactement cette situation.
Je ne vois pas par qui. D'accord. Ça peut être fait. En tout cas, pas par des agents de l'OFI qui n'ont aucune compétence pour mettre fin à l'hébergement d'urgence.
Vous savez, c'est très facile de répondre ça. À partir du moment où vous fermez le robinet et vous dites.
Mais quel robinet
système, financier, que vous dites.
Mais il n'y a pas de robinet fermé financier.
Enfin. Non, mais attendez, jouez pas sur les mots. Vous jouez complètement sur les mots. Je veux dire, ça, c'est de la politique politicienne. C'est vraiment. La réalité, c'est qu'il y a des gens en extrême précarité qui étaient effectivement dans des hébergements d'urgence depuis des années et qui ont une crainte aujourd'hui avec cette circulaire de se faire contrôler et de se faire arrêter.
Mais du coup, vous leur conseillez quoi, par exemple, à ces gens-là ? Est-ce que ça peut être quoi ? Le conseil, ça peut aller jusqu'à leur déconseiller d'aller vers ces centres d'hébergement d'urgence ?
Mais c'est pas moi qui vais leur conseiller ça, mais aujourd'hui, c'est le constat. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans les camions avec les maraudes pour aller dans des centres d'hébergement parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont se faire renvoyer dans leur pays. Ça, c'est la politique de la peur.
Oui,
je ne vous dis pas que c'est normal.
D'épouser ce type de discours, parce que c'est faux. L'hébergement d'urgence généraliste, c'est 140 000 personnes aujourd'hui hébergées dans l'ensemble du territoire national. C'est une dépense qui augmente de 100 millions par an, à peu près. Je veux dire, c'est aujourd'hui 2,1 milliards qui sont consacrés à cela, et je crois qu'il faut continuer à le faire, et la circulaire et en tout cas l'action de l'OFI n'a en aucune manière pour finalité de mettre un terme à l'hébergement d'urgence de quiconque.
Voilà, on verra de manière ce que dira le Conseil d'État. On sait quand le Conseil d'État doit statuer ? L'un ou l'autre a une idée ? Non ?
Oui, je crois que c'est le 21 février.
L'audience est prévue, je crois, le 16 février.
C'est le 16 ?
Ah bah voyez, vous avez appris quelque chose. Ouais. Voilà, on suivra évidemment cette question. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir discuté. Didier Lesky, donc je rappelle, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et Corinne Thor, chef de mission France à Médecins sans frontières. Discussion que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe du Grain et bienvenue à notre nouvelle stagiaire Prune 16. Émission réalisée par Véronique Villa avec la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.